Samedi Gourmet, une émission de Roger Huet.
Bonjour mesdames et messieurs. Une des plus belles phrases que j'ai entendues vient de Michel Chapoutier, qui est une tête de file en Côte du Rhône. Il a dit « Le vin vient du ciel et de la terre et de l'amour qu'on lui porte ». Je reçois à l'instant le directeur export de la maison Michel Chapoutier. Bonjour Pierre-Adrien Fleurin.
Bonjour Roger.
Racontez-nous l'histoire de la maison Chapoutier dont la devise est « Fac et spera », « Fais et espère ».
Absolument. Fac espera, c'est la devise de la maison Chapoutier qui retrace la philosophie de notre maison. Fais et espère. Alors, quelques mots d'abord peut-être sur l'histoire de la maison Chapoutier. Cette maison a été fondée en 1808 par Polydore Chapoutier. Et ça n'est vraiment dans les années 1930 que Marius Chapoutier, qui est l'arrière-grand-père du propriétaire actuel, Michel, a acheté des vignes en ermitage et a construit notre première cuverie, donc en ermitage, qui est dans le nord de la vallée du Rhône. Ça a été un tournant historique pour la maison, et puis c'est aujourd'hui maintenant la 7e génération, Michel Chapoutier, qui tient les rênes de la société. Il a pris la suite de son père lorsqu'il avait 26 ans, en 1989. Donc ça fait un petit peu plus de 20 ans qu'il tient les rênes de la maison Chapoutier. Michel donc était très jeune lorsqu'il a repris l'entreprise, avec cette idée forte qui était de dire que il voulait faire des vins très fidèles de leur terroir d'origine. Alors en ermitage, on a beaucoup de chance parce que c'est le seul endroit au monde où nous avons les quatre âges géologiques visibles. À l'œil nu, on peut voir quatre âges géologiques. Ça nous permet de faire des vins très diversifiés, très variés, avec chacun leur personnalité.
J'ai rencontré une fois Michel Chapoutier à Montréal. Il a une très forte personnalité. C'est un philosophe et il est passionné par la vigne et par le vin. Ses principes sont, je crois, le respect du terroir, l'audace, la convivialité et la générosité.
Tout à fait, Roger. C'est peut-être intéressant de revenir sur le concept de terroir. Vous avez évoqué le terroir. Alors, le terroir, c'est en fait la combinaison du sol, hein, ce qui fait le sol, l'originalité du sol, le climat également, donc les qualités d'un millésime et également la météo d'une région. Et également les hommes, c'est-à-dire le savoir-faire, la tradition qui permet de combiner ces éléments. Alors chaque vin est représentatif d'un certain terroir et nous ce qu'on aime bien chez Chapoutier c'est avoir des vins qui sont comme la photo la plus fidèle du terroir. On veut des vins les plus authentiques possibles. Et puis vous l'avez évoqué Roger, l'audace, la convivialité puis la générosité. Alors ça c'est vrai que le vin, c'est d'abord la rencontre, les amis, le partage. Et chez Chapoutier, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de partager. Quand on a un verre de vin ensemble, on veut échanger et puis transmettre cette bonne humeur et cette joie de vivre. C'était Marius Chapoutier, qui était l'arrière-grand-père de Michel, qui disait « Un bon vin, c'est un vin qu'on veut reprendre une deuxième fois ». C'est une définition qui est simple, mais ça permet de... C'est ça, c'est un bon vin, c'est un vin qu'on veut partager avec ses amis et puis dont on veut reprendre un deuxième verre.
Combien d'hectares de vignes a la propriété aujourd'hui ?
Alors, on a à peu près 400 hectares de vignes qui se répartissent dans la vallée du Rhône, dans le Roussillon, hein, dans le sud de la France. On a également des vignes en Australie et puis plus récemment en Alsace. Donc la maison Chapoutier s'est exportée avec toujours cette philosophie de faire des vins fidèles du terroir, des vins élégants, des vins d'une grande finesse. Et puis à chaque fois que Michel Chapoutier rencontre un sol un peu différent, un terroir intéressant, eh bien ma foi on y va et puis on essaye de faire le meilleur vin possible. Donc on est aujourd'hui dans 5 régions pardon, différentes, j'ai oublié le Portugal, on a également des vignes dans la vallée du Douro au Portugal.
Et à chaque fois vous recherchez à obtenir la quintessence du terroir et des terroirs totalement différent.
Exactement. On a par contre toujours à peu près les mêmes cépages, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur la Syrah, le Grenache, qui sont des cépages typiquement rhodaniens, notamment par exemple dans le Roussillon, où on travaille beaucoup le Grenache et la Syrah, également en Australie. Hein, où on cultive également la Syrah sur des sols très anciens, des sols de l'époque du Cambrien, dans la région du Victoria, pas très loin de Melbourne. Et également, c'est ce qu'on essaye de faire donc, dans le Roussillon. En Alsace, on travaille le Riesling sur un sol très différent, mais très intéressant, qui s'appelle le schiste bleu. On est sur le seul terroir de schiste bleu en Alsace. Donc le point commun en fait de tous ces projets, c'est que dès qu'on a un terroir ou un sol intéressant, on y va et on fait la culture de la vigne sur ces sols uniques.
Combien de types de vins proposez-vous aux consommateurs ?
On a un portefeuille de vins qui va des prix accessibles. Hein, donc, par exemple, Marius, qui est un vin qu'on va lancer d'ici une dizaine de jours à la SAQ, qui commence à $14,95, jusqu'à des vins très fins comme le Pavillon, le Méal, des grandes cuvées de l'Ermitage, sur lesquelles on est à des prix de $300-400. Donc, on essaye d'offrir vraiment une grande variété de vins. Et puis, encore une fois, on est sur des régions très différentes, des cépages également différents. Donc, on offre des types de vins très différents. Mais la constante, ce qui rassemble tous ces vins, le point commun, c'est qu'on veut toujours des vins de plaisir, des vins qui soient accessibles à tous. Et surtout, ce que l'on veut, c'est démystifier le vin. Le vin est quelque chose qui doit être partagé. On ne veut surtout pas faire des vins qui soient sophistiqués. Les gens parfois ont un peu peur du vin, alors que c'est quelque chose qui doit être partagé, ça doit être quelque chose qui doit être... C'est la convivialité, comme vous disiez, Roger. Donc c'est un petit peu l'esprit de la maison Chapoutier.
Quelle est l'importance de votre marché d'exportation par rapport à toute votre production et la part du Québec ?
Alors, on est à peu près à 50% de vente à l'export. Hein, donc 50% de la production est vendue en France, et puis l'autre moitié est vendue à l'export. Et le Québec, aujourd'hui, représente sur ces 50% à l'export environ 10%. Mais cette part monte parce que les Québécois boivent de plus en plus de vin Chapoutier. Donc on a un marché qui monte ici avec le producteur Michel qui se rend très souvent ici parce qu'il aime beaucoup le Québec. C'est une province qu'on aime beaucoup. La dernière fois qu'il est venu, d'ailleurs, il a été pêché en Gaspésie. Il a été à la pêche au saumon en août dernier. Vous voyez, donc il vient très souvent nous rendre visite. Et puis, bon, il fait quelques dîners, etc., des dégustations. Donc ce qu'on aime beaucoup, c'est aller à la rencontre en fait, des personnes qui boivent nos vins. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est le partage. On ne peut pas vraiment vendre du vin si on ne va pas en parler et rencontrer les gens qui le dégustent.
Vous nous avez apporté deux vins à déguster, le Marius Rouge 2012 et le Maisonnier Croz Hermitage 2011. Mmh. Est-ce qu'ils sont tous les deux actuellement disponibles à la Société des Alcools du Québec ?
Oui, Roger, en effet, les deux vins, les Maisonniers Rouges, notre Croz Hermitage, et Marius, qui est un vin de Pays d'Oc, les deux vins sont disponibles à la SAQ.
Merveilleux. Nous allons donc commencer la dégustation par le Marius Rouge 2012, qui est un assemblage de Syrah et de Grenache, vinifié séparément, et qui montre le grand art de l'assembleur.
Avec grand plaisir, Roger.
La robe est rouge, pourpre, limpide, avec des reflets violines. Magnifique.
Absolument, Roger.
Et le nez, puissant. Des arômes complexes. De poivre noir, je dirais.
Tout à fait. Vous avez ces notes de poivre qui viennent notamment de la Syrah. La Syrah apporte ses notes poivrées, de poivre blanc, ses notes d'épices. Et puis, vous avez également le Grenache, qui apporte plus ses côtés cerises rouges, fruits rouges, framboises, très gourmand.
Très, très gourmand. Beaucoup de puissance et d'élégance. En bouche, l'attaque est puissante, concentrée, structurée. Les tanins serrés, une très belle fraîcheur.
C'est vrai que vous avez... un vin qui est très gourmand, très frais, très facile à boire. Vous savez, Je pense qu'avec ce vin, on pourrait prendre par exemple une salade de chèvre ou des grillades, de la charcuterie. C'est un vin qui est très agréable à boire par lui-même, on pourrait le prendre en apéritif, mais qui serait également très bon à boire avec, en mangeant. C'est un vin de convivialité également, celui-ci.
Oui, il est assez gourmand quand même. Ah, vraiment un vin très intéressant. Maintenant, nous dégustons le Maisonnier Croz Hermitage 2011, qui est fait entièrement de Syrah, un vin issu de l'agriculture biologique, un vin dont la vinification et l'élevage se font en cuve de ciment, je crois.
Absolument. C'est intéressant ce point, car l'élevage en cuve de ciment nous permet... C'est un petit peu technique et complexe, mais lorsque l'on vinifie un vin, lorsqu'on l'élabore, on doit faire ce qu'on appelle la macération. Et cette étape-là, ce qu'on appelle également la cuvaison, chez Chapoutier, on essaie qu'elle dure 3 ou 4 semaines. Ça permet en fait d'extraire les tanins les plus fins, d'obtenir un vin très élégant. Et ça, on peut l'obtenir en faisant un vieillissement en cuve béton. Vous voyez, Roger, en dégustant ce Croz Hermitage et Marius, on a presque l'impression de voyager en vallée du Rhône.
Oui, c'est vraiment un vin magnifique, avec une robe plus rubis, dans ce cas moins intense que l'autre, mais tellement, tellement lumineuse, tellement belle, invitante. Les arômes, les fruits rouges, le cassis... La framboise. Et je dirais qu'un deuxième nez de violette.
Absolument. Vous avez également le nez... ça, c'est justement... Alors, les Maisonniers, c'est donc un vin de Croz Hermitage, hein, du nord de la vallée du Rhône. Ce qui est intéressant avec le Croz Hermitage, c'est justement ces notes d'épices, de poivre, des notes de poivre blanc notamment. Et puis, vous le disiez, Roger, ce nez de mûre, de cassis, c'est vraiment des notes très intéressantes. Et puis, qu'on va également retrouver en bouche. On a cette continuité entre le nez et le palais.
Alors, goûtons-le. Une bouche ample, ronde. Des tanins bien fondus, avec l'acidité et l'alcool. Une longue finale où on retrouve en effet les fruits cuits, mais aussi des touches de vanille, malgré qu'il n'a pas été élevé en barrique.
Absolument. Vous savez, les notes de vanille, ça peut venir du bois, mais également du terroir. On évoquait le terroir tout à l'heure.
Oui.
Et on a ici un vin structuré, mais ce que l'on essaye de faire aussi chez Chapoutier, c'est de développer la minéralité du vin. Vous savez, quelquefois, lorsqu'on revient, par exemple, après une pluie chaude en été, vous prenez quelquefois des pierres dans vos mains, vous les sentez, et puis ça sent la pierre, ça sent presque ce côté un peu crayeux. C'est ça qu'on essaie de développer sur nos vins. C'est-à-dire, la vigne va puiser ces côtés minérales du terroir et du sol, et c'est ça que l'on veut exprimer dans nos vins, cette délicatesse du terroir.
C'est vraiment un vin intéressant et délicieux. Que suggérez-vous à marier avec ce vin ?
N'importe quelle viande grillée pourrait tout à fait convenir, mais pourquoi pas, par exemple, quelque chose comme un cassoulet, par exemple.
Ah oui, un cassoulet.
Un cassoulet, ce serait...
Ce serait l'idéal, vraiment.
Exactement. Ou alors, vous savez, des fromages, par exemple, à pâte cuite.
Nous avons placé vos liens et ceux de votre agent Philippe Dandurand sur le blog de notre émission. Merci d'être passé à Samedi Gourmet, Pierre-Adrien Fleurin.
Merci, avec grand plaisir, Roger. Thank you.
Je te laisse voir ma beauté dans une tunique de lin royal, le plus fin, imprégné d'essence balsamique, trempé dans l'huile parfumée. Cette phrase, d'un chant des bords de l'eau, laisse entrevoir ce que pouvait être la douceur de vivre en Égypte à l'époque de Cléopâtre. Je vais vous présenter un texte de l'écrivain latin Pline l'Ancien qui s'appelle « Le Paris de Cléopâtre ». Cléopâtre, reine d'Égypte, était la fille de Ptolémée XII. Elle était née en 69 avant Jésus-Christ. Elle avait 18 ans à la mort de son père et monta sur le trône d'Égypte avec son frère Ptolémée XIII, qui n'en avait que 14, et qu'elle fut contrainte d'épouser selon la coutume de l'Égypte. Son frère était dominé par un eunuque, Potino, qui complota pour faire mourir Cléopâtre et affirmer le pouvoir de son protégé. Cléopâtre se cacha, et lorsque Jules César entra en Égypte en persécution de Pompée, il se retrouva dans la situation d'arbitre. Il convoqua les deux frères à s'expliquer. Cléopâtre le sut, mais ne pouvait pas se présenter de peur d'être assassiné. Pour tromper la surveillance des gardes, elle eut l'idée de se faire envelopper dans un tapis et de se faire porter comme un cadeau à César. Lorsque le tapis fut déroulé devant le Romain, une jeune princesse apparut souriante. César fut charmé par le stratagème et en tomba follement amoureux. Le frère fut chassé du pouvoir et César rentra à Rome avec Cléopâtre au bout de 9 mois avec un enfant qu'ils appelèrent Césarion. Après l'assassinat de César à Rome, Cléopâtre dut retourner en Égypte précipitamment. Quelque temps après, Marc-Antoine, qui était venu au Moyen-Orient pour régler les affaires de Rome, se présenta en Égypte en conquérant. Il convoqua la reine pour la juger. Au lieu de se présenter soumise et en pleurs comme il s'attendait, elle descendit le Nil dans une nef dorée aux voiles rouges où elle, habillée de voiles, apparaissait comme une Vénus, tandis que ses dames, habillées en nymphes, jouaient des fifres et des tambourins. Toutes les personnes qui entouraient Marc-Antoine se précipitèrent sur le bord du Nil pour contempler le spectacle. Elle envoyait une missive au général pour l'inviter à manger. Il fut bien contraint de s'y rendre, quoique furieux d'avoir manqué son effet, et retrouva ses généraux qui étaient déjà au pied de Cléopâtre. On raconte qu'aux entrées, il se montra très sévère, et qu'au dessert, il lui avait déjà fait cadeau de la Phénicie, de Chypre, d'une partie de l'Arabie et de la Palestine. Antoine s'installa à Alexandrie pour gérer l'Empire d'Orient. Cléopâtre, pour le garder, l'entoura d'un halo de sensualité et de fête. Elle le poussait à manger et à s'enivrer. Les Égyptiens disaient « Le général montre son regard sévère à ses troupes et à nous, il nous montre son visage gouailleur. » Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, nous raconte le repas le plus célèbre de l'Antiquité, qui est celui que la divine Cléopâtre organisa à la suite d'un pari. Au temps où Antoine se gavait journellement de mets choisis, Cléopâtre, avec le dédain à la fois hautain et provoquant d'une courtisane couronnée, dénigrait toute la somptuosité de ses apprêts. Il lui demanda ce qu'il pouvait être ajouté à la magnificence de sa table. Elle répondit qu'en un seul dîner, l'engloutirait 10 millions de sesterces, un bon million de dollars d'aujourd'hui. Antoine était désireux d'apprendre comment, sans croire la chose possible. Ils firent donc un pari. Le lendemain, jour de la décision, elle fit servir à Antoine un dîner somptueux. Il ne fallait pas que ce jour fût perdu. Mais Antoine se moqua et demanda à vérifier le compte des dépenses. Ce n'était, assura-t-elle, qu'un à côté. le dîner coûterait le prix fixé et elle seule mangerait les 10 millions de sesterces. Elle ordonna d'apporter le second service. Suivant ses instructions, les serviteurs ne placèrent devant elle qu'un vase rempli d'un vinaigre dont la violente acidité dissout les perles. Elle portait à ses oreilles deux perles d'une taille extraordinaire, un chef-d'œuvre de la nature. Alors qu'Antoine se demandait ce qu'elle allait faire, elle détacha l'une des perles, la plongea dans le liquide et lorsqu'elle fut dissoute, l'avala. Elle se disposait à engloutir l'autre de la même façon. Mais Plancus, arbitre de ce pari, mit le holà et prononça qu'Antoine était vaincu. Présage qui s'est accompli plus tard. La célébrité ne fit pas défaut à la perle jumelle. Après la capture de cette reine, la perle fut sciée pour que chaque moitié devint un pendant d'oreille pour la Vénus du Panthéon à Rome.
Quando si atteia em nós fogo preso, o corpo a corpo em que ele vai girando, faz o meu corpo arder no teu aceso e nos calcina, e assim nos vai matando essa luz repentina até perder o lento. A sombra se ilumina e é tudo esquecimento tão violento e brando. Sacode a luz o nosso ser surpreso e devastados nós vamos a seu mano. Ai, nessa prisão o mundo perde o peso e em fogo preso chamas vão pairando e vão se libertando, fogo e contentamento a revoar num bando de beijos tão sem tento que não sabemos quando são fogo ou água.
Merci auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Vous trouverez les liens de nos invités sur notre blog dont l'adresse est www.vsgourmand.wordpress.com. Je vous attends samedi prochain à midi pour une autre joyeuse émission sur la gourmandise. Je suis votre animateur Roger Huet, à la technique était Guy Lafrance. Bonne semaine.
Donde que lindo, cuenta una leyenda, que en un barretano conjura la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cané. Tendrás a tu hombre piel morena desde el cielo plana, luna llena, pero cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien soy en mola para no estar sola poco le va a querer. No la quiere ser padre y no encuentras querer. Con un niño de piel, ah. de canela, nació un niño blanco como el lomo de un armillo, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de la luna. Maldito su estampa, este José y se viene a llorar.